Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel et tout premier épisode de notre série de podcast « La santé numérique au temps du Covid-19 ». Notre nouvelle série s'intéresse aujourd'hui aux solutions numériques mises en place par les pouvoirs publics et par l'exécutif français afin de contrer la propagation de ce fâcheux virus. Nous avons sûrement tous déjà entendu parler de Stop Covid ou sinon de sa version 2.0, tous anti-Covid, actualisée le 22 octobre dernier. Par ailleurs, nous savons tous que la France est fracturée, divisée socialement et que la défiance politique, dont la cicatrice encore vive de la crise des Gilets jaunes, est aujourd'hui un enjeu de taille. Mais face à la spontanéité et le caractère inédit de cette pandémie, nous ne savons rien et nous devons faire confiance à ceux qui savent, ou en tout cas à ceux qui cherchent pour savoir, soit autrement dit aux chercheurs, aux scientifiques et aux responsables politiques conseillés par ces derniers afin de nous informer. Il est vrai que le citoyen moderne et connecté n'avait plus été confronté à une si grande asymétrie d'informations, qu'il s'agisse de politique ou bien encore de sa propre santé. Internet avait permis aux citoyens, dans un sens large et aux patients lorsque la santé était le centre du sujet, d'acquérir plus de pouvoir, ou dans des termes plus ou moins shakespeariens, de découvrir son empowerment face à ses experts scientifiques, souvent face aux médecins. Mais il n'en est plus rien à l'heure du coronavirus.
Mais alors Clémence, à qui doit-on faire confiance ? Quand tout devient flou et incertain dans un monde bouleversé par une pandémie soudaine, et que vous et moi nous retrouvons à écouter soir après soir les innombrables allocutions présidentielles et messages de communication ministérielle.
Il est vrai que le gouvernement a misé sur une stratégie de développement de nouveaux outils numériques pour lutter contre le Covid, tels que Stop Covid dès le 2 juin 2020, et plus récemment Tous Anti-Covid. Sans oublier qu'en trame de fond, le recensement des cas contacts par la Caisse nationale de l'assurance maladie se fait conjointement à la transmission des résultats positifs par les laboratoires, via une plateforme numérique nommée CIDEP. Tout ce processus de traçage, qui est ce qui est, mais qui a certainement manqué en efficacité de par la complexité de jongler entre deux instances de santé et deux plateformes différentes, est rassemblé sous le nom de Contact Covid. Mais cette seconde partie de traçage des cas contacts ne relève pas de la volonté de tout un chacun, contrairement aux applications. C'est entre autres ce point-là que nous approfondirons dans les quelques minutes à venir.
Mais au-delà de ces beaux discours qui ont réuni un audimat croissant au fur et à mesure de la crise sanitaire, comment la communication politique a-t-elle conduit à un si faible usage des deux applications de lutte contre le Covid en France ?
Oui, il est vrai que la communication dans le lancement d'une application, semblable à tout autre produit, doit nécessiter un intérêt particulier de la part de ses développeurs. Alors que Facebook bat tous les records en étant téléchargé par plus de 5 milliards d'utilisateurs à travers le monde en 2019, l'application Stop Covid se solde, elle, par un échec, avec seulement 2,6 millions de téléchargements. Il faut ajouter à cela que téléchargement ne veut pas dire activation du Bluetooth, et est donc nullement synonyme d'efficacité de l'application de traçage. D'après les dires du président de l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique, au passage lui-même concepteur de la première application, Bruno Sportis, l'application Stop Covid a envoyé 268 notifications depuis le mois de juin. Cette déclaration avait lieu juste avant le lancement de la nouvelle application. Qui dit nouvelle application, dit nouveau nom et nouvelle interface. L'exécutif a donc tenté de revoir sa copie en matière de communication, tout en reconfigurant et renommant l'application. Dans le marketing, dès lors que la promotion marchande entre en jeu, le nom, la marque de fabrique, est un facteur déterminant dans la réussite commerciale du produit. Or ici, dans le cadre de cette application, bien qu'aucun enjeu marchand ne soit présent, eh bien oui, vous serez par la suite de notre série rassuré que pour une fois, vos données ne seront pas utilisées à des fins commerciales, puisque le but de l'État est simplement d'endiguer la pandémie et de protéger sa population. Donc je reprends. Bien qu'aucun enjeu marchand ne soit présent, le nom de la seconde application est bien plus accrocheur et surtout révélateur du pilier le plus important de la réussite de cet outil numérique, l'autonomisation de chacun et chacune. Tous anti-Covid inclut tout le monde dans la lutte pandémique et engage une réflexion qui doit amener un comportement actif dans le sens qu'il faut que chacun, ou en tout cas au moins 20% de la population française, utilise l'application. Puisque nous l'oublions pas, cette application se télécharge sur la base du volontariat. Côté communication politique, il y a eu certes du progrès. Plus de messages courts et répétés, à longueur de journée, aussi bien à la télé que dans les transports. Il va de soi en effet que les transports sont un lieu propice à la rencontre de nombreuses personnes, éventuellement positives, et où l'utilisation de l'application prend alors tout son sens. Et pourtant, loin sont tous les utilisateurs réguliers du métro d'avoir cet outil en poche. À quoi bon quand le Premier ministre lui-même rajoute de l'huile sur le feu en cassant la dynamique de communication qui était nouvellement instaurée, aussi bien sur les sites gouvernementaux que sur la page Instagram du président lui-même? Le téléchargement de cette application était présenté comme le nouveau geste barrière à appliquer. En tout lieu et pas exclusivement dans le métro, comme le laissait entendre Jean Castex le 24 septembre dernier sur France 2.
Avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone ?
Non.
Non ?
Quoi ?
Non.
Non, parce que je ne l'ai pas fait.
Mais pourquoi ?
Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait ?
Je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je ne l'ai pas fait.
Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà.
C'est un peu dire pourtant.
Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais.
Non. Je vais vous dire, parce que, écoutez-moi bien, vu les activités qui sont les miennes, vous les voyez ?
Oui.
Très honnêtement. Stop Covid, c'est très intéressant. Quand vous allez dans le métro, quand vous croisez du monde, vous avez, malheureusement, l'exercice de mes fonctions fait que je ne prends plus le métro, je le regrette.
Ouais,
je
vous croisez des gens tout le temps.
Vous avez vu Christian Prudhomme, heureusement qu'il vous a prévenu, parce que l'application...
Il y a Bruno Le Maire que vous croisez qui est malade.
Oui, mais en tout cas, je vois quand même, hélas, beaucoup moins de monde devrait que l'utilisation
juste
de Stop
une question.
Covid.
Nous l'aurons donc compris. La communication politique sur l'intérêt de cette appli n'a pas tout de suite été optimale, ce qui a entraîné de fait un faible taux de téléchargement de la première application. La deuxième version a l'air toutefois de mieux s'en sortir. En moins d'une semaine après cette mise à jour, le record de téléchargement de Stop Covid avait déjà été dépassé, comptabilisant ainsi 6,7 millions d'utilisateurs au 1er novembre. Certains y voient un effet président, à la suite de l'allocution présidentielle du 28 octobre annonçant un nouveau confinement. Comme quoi finalement, les politiques et leurs discours auraient bel et bien un impact sur nos comportements numériques. En effet, d'après un sondage réalisé par Nos Soins, sur 96 personnes vivant en France lors de la crise sanitaire, à peine 20% avaient téléchargé Stop Covid, contre 35% pour tous anti-Covid. Notons que ces chiffres sont largement supérieurs à la moyenne nationale, mais révèlent une utilisation plus accrue de la seconde version.
Mais dis-moi Clémence, outre le nom de l'appli, qu'est-ce qui diffère de l'une à l'autre de ces applications et qui pourrait expliquer le sursaut d'intérêt pour cette deuxième version ?
Alors, tout comme la première, elle repose sur trois principes fondamentaux. Premièrement, le volontariat. Ensuite, l'anonymisation des données. Et enfin, son caractère périssable, c'est-à-dire inutile après que la crise sanitaire sera résolue. Mais elle propose aussi de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur. Il est désormais possible d'être informé sur l'évolution de la circulation du virus, ou encore de savoir où et quand le dépistage est réalisable. Et surtout, avec l'instauration du nouveau confinement, il devient possible à travers tous anti-Covid de générer des attestations de déplacement dérogatoires. Ce qui, sans vous mentir, nous facilite bien la vie, déjà compliquée en période de Covid. Mais bon, voyons le positif. Le bout de papier imprimé et rempli à la hâte appartient maintenant au passé du premier confinement. Cette dernière raison facilitant un impératif légal a sûrement poussé de nombreux concitoyens à télécharger cette deuxième version. Toujours selon notre propre observation, 79% des personnes ayant téléchargé tous anti-Covid citent le fait de télécharger cette app, de générer une attestation comme l'une des raisons pour laquelle ils se seraient dotés de cet outil numérique. Olivier Véran, ministre de la Santé, considère tous anti-Covid comme une arme quotidienne que chacun devrait posséder pour qu'au niveau national, la propagation du virus soit réduite. Encore loin des 18 millions de téléchargements allemands, le ministère de l'Économie annonçait ce 9 novembre les 8 millions de téléchargements de tous anti-Covid, soit par un peu plus de 10% de la population française. Le fait que 20% de la population française devrait être équipée de cette application afin de contenir l'évolution du virus n'est certes pas effectif, mais la communication semble bel et bien s'améliorer, peut-être à l'instar de celle utilisée dans les pays voisins. C'est ce que nous verrons très prochainement. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'ici et je vous propose qu'on se retrouve en compagnie de Louise pour une analyse cette fois-ci de l'application allemande lors du prochain épisode.